Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Bonsoir tout le monde, et oui, il est 6h, 6h avant minuit, bienvenue dans l'émission d'actu locale de Syllab. La semaine dernière, Tesla, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, présentait à Los Angeles des prototypes de robots humanoïdes autonomes. Leur nom Optimus, leur mission, garder vos enfants, promener votre chien ou vous servir un verre. Les vidéos d'Optimus sont assez bluffantes, le robot réalise des mouvements précis, rapides. On arrive même à répondre à des questions en effectuant sa tâche, une prouesse technique a priori seulement, car les gestes de l'automate étaient en fait contrôlés par des humains à distance. Petit arrangement avec la réalité de la part d'Elon Musk, habitué des raccourcis et autres petits mensonges. La semaine dernière également, un robot à trois bras a dirigé à la baguette un orchestre en Allemagne. Celui-là, il n'y avait pas d'humain derrière, enfin pas directement. On l'a entraîné à reconnaître le temps de battements et à indiquer la dynamique de la musique, et il, ou elle, s'est débrouillé en totale autonomie. À quand un robot pour vous présenter cette émission? Je crois que le chômage me guette. En attendant, c'est une humaine qui vous propose le Flash Info d'aujourd'hui. À toi Zoé.
Pékin emploie la manière forte. Avions de chasse, bombardiers et navires de guerre ont été déployés ce matin autour de Taïwan. Des manœuvres militaires de grande envergure présentées par la Chine comme un sérieux avertissement aux autorités séparatistes de l'île. Ces exercices qui font craindre une escalade surviennent quelques jours après un discours du président taïwanais qui s'était promis de protéger un Taïwan démocratique. Son ministère de la Défense a dénoncé, je cite, « un comportement irrationnel et provocateur de Pékin et ses troupes militaires sont sur le qui-vive ». Cap sur le Proche-Orient. Dans la région, la tension monte entre l'ONU et Israël. Ces derniers jours, les casques bleus de la FINUL, la force intérimaire de l'ONU au Liban, déployée au sud du pays, connaissent des accrochages à répétition avec l'armée israélienne. Hier encore, la force onusienne dénonçait une entrée en force de deux chars israéliens sur l'un de leurs camps de base. Des attaques condamnées fermement par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dimanche. Aujourd'hui rejoint par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Ce dernier a déclaré qu'il était complètement inacceptable d'attaquer les troupes de l'ONU, qui, rappelons-le, sont les soldats du maintien de la paix. Place à la politique, alors qu'on pensait l'actualité de la semaine focalisée sur le budget, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, a embrayé sur une autre thématique. Invitée sur le plateau de BFM TV ce dimanche, elle a annoncé, entre autres, une nouvelle loi immigration dont l'examen pourrait démarrer début 2025. Son objectif ? Faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, souhaite faire passer le séjour derrière les barreaux de 90 jours maximum à 210 jours. De quoi faire plaisir au Rassemblement National qui se frotte déjà les mains. Jordan Bardella réagit plus tôt dans la journée en déclarant qu'aujourd'hui, plus rien ne pouvait se faire sans eux au Parlement.
Ce lundi marque aussi un jour d'hommage national, Zoé.
Oui, une minute de silence a été observée dans la journée dans tous les collèges et lycées de France. Un instant suspendu pour rendre hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, des professeurs assassinés respectivement en 2020 et 2023 par des islamistes radicalisés. Michel Barnier était attendu cet après-midi dans le collège de Samuel Paty pour marquer le souvenir du professeur. Et maintenant, intéressons-nous à la situation en Martinique.
Radio sauvage.
Minuit.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On nous a lancé une petite virgule, mais c'est pas ça qu'on attendait, mais c'est pas grave. La situation en Martinique, expliquée par Aglaé.
Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, une petite question. En quelle année sommes-nous ?
2024, a priori, je crois, à moins qu'on ait voyagé dans le temps.
Mais... C'est bien ça. Pourtant, la situation ressemble à celle de 2009 en Martinique. En effet, elle avait été pendant près de 40 jours secouée par une grève générale qui était menée contre la vie chère. 15 ans plus tard, rien ou presque n'a changé. le gouvernement tente de faire croire à une amélioration de la situation. Pourtant, ces derniers jours, de nombreuses tensions ont éclaté. Jeudi dernier, le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, annonce une interdiction de manifester ainsi qu'un nouveau couvre-feu de 21h à 5h du matin jusqu'à aujourd'hui. Le soir même, le seul aéroport de l'île ferme. Des manifestants envahissent le tarmac. Le lendemain a eu lieu la sixième table ronde entre la collectivité territoriale de Martinique, l'État, les distributeurs et le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Ils se sont réunis afin de négocier et conclure un accord, mais rien n'a été signé. Pourtant, 24 points ont été validés. Seuls 2 points de désaccord persistent. Le pourcentage d'écart avec les prix de l'Hexagone et le nombre de produits concernés par la baisse. Samedi, la CGT Martinique a appelé à manifester. Ses demandes, l'ouverture de négociations et le départ imminent de la CRS 8. Arrivée le 21 septembre en Martinique, cette unité est spécialisée dans les luttes contre les violences urbaines. Sa présence est vue comme une provocation. C'est la première fois en 65 ans qu'une compagnie républicaine de sécurité est autorisée à intervenir sur l'île. L'enchaînement de ces événements conduit aujourd'hui à une situation très tendue. Depuis septembre, les Martiniquais manifestent leur ras-le-bol, manifestations, barrages, mais aussi voitures brûlées. En comparaison avec la France métropolitaine, les prix sont exorbitants. Dans une enquête réalisée en 2022, l'INSEE révélait que le niveau des prix de l'alimentaire est supérieur de 40% en Martinique par rapport à la métropole. Par exemple, si vous voulez déguster un paquet de 192 grammes de Malteser, il vous coûtera 5,45 € contre 2,51 € dans la métropole, soit environ 117% plus cher. Autant dire que ça refroidit un peu.
Aussi, l'alimentaire n'est pas le seul poste de dépense à coûter plus cher. Les prix des dépenses liées au logement sont supérieurs de 7%. Et l'écart de prix pour les dépenses de santé est, lui, de plus 13%. Après Griezmann et Nadal, c'est au tour d'Amandine Henry de faire ses adieux, aux compétitions internationales. L'ex-capitaine de l'équipe de France de football féminin a annoncé vouloir tourner la page sur ses belles années tricolores. 15 ans au service des Bleus, la milieu de terrain a tout tenté pour compléter son palmarès à l'international, qui sera malheureusement resté vierge. Pour autant, la joueuse athlète aux JO de Paris cet été compte à son actif 109 sélections et 14 ballons dans le filet. Ce lundi, l'humeur n'était pas à la fête non plus pour les teufeurs rennais. Il y a un peu moins de 4 ans, en plein Covid, s'organisait une rave party à Lieuron, près de Rennes. 2500 personnes réunies dans des hangars privés pour une soirée prolongée sur 36 heures. 6 hommes doivent désormais comparaître devant le tribunal correctionnel. Cette rave ayant bravé le couvre-feu et l'obligation de déclaration et d'autorisation avait fait grand bruit. Les prévenus encourent jusqu'à 5 ans de prison. Plus de musique non plus, au même le chapiteau rennais qui borde la Vilaine. L'actuelle salle de concert va être démontée en janvier 2025. Mais pas de panique, la relève est assurée. Le même de, un nouveau chapiteau, qui sera baptisé Magic Mirrors, prendra bientôt ses quartiers pour la remplacer. Le permis de construire de ce nouvel espace dédié à la culture a été accepté ce vendredi. 12 000 mètres carrés de terrain ont été négociés pour nous faire redanser dès octobre prochain.
Une dernière info culture, Zoé ?
Tout à fait. Début octobre, la radio Quasi Rose de Syllab était de sortie au festival Haute-Parleuse, à l'Hôtel-Dieu. Un atelier d'initiation au micro-trottoir a permis à 5 personnes de s'essayer à l'exercice. De l'écriture des questions à la déambulation micro à la main, elles se sont prêtées au jeu avec brio. On écoute de suite un extrait du micro-trottoir réalisé sur la thématique genre et voix.
Est-ce qu'il y a des situations où vous modélez votre voix?
Ça peut m'arriver de prendre une voix plus aiguë quand je veux être plus gentille, par exemple, que ça soit auprès de mon chéri ou de mon chien, par exemple, aussi, pour passer l'information plus gentiment. Mais inversement aussi, si je veux être un peu plus, m'affirmer un peu plus, prendre une voix un peu plus grave.
Moi, je peux répondre. Oui, il m'arrive de modifier ma voix car je suis une femme et j'ai une voix bien grave. Et bon, voilà, et je peux avoir des tons relativement durs. Donc ça peut m'arriver de me forcer avant certains coups de fil. Je travaille dans le management d'artistes, donc voilà, certains coups de fil où j'ai des choses un peu compliquées à faire passer, de me dire « Allez !» prends ta voix douce et ta voix un tout petit peu plus aiguë et essaye d'être un tout petit peu... Je peux vite passer pour agressive quand on a une grosse voix. En plus, je peux vite parler fort et monter dans les tours en vitesse et en volume. Donc voilà. Donc oui, je travestis ma voix parfois pour le bien-être de ceux qui m'écoutent.
Oui, je pense qu'effectivement, la modulation de la voix se fait aussi en fonction de l'âge. Pour plutôt des enfants avoir une voix un peu plus douce et la voix, on va dire, plus normale pour les adultes.
Tout le temps. Je suis anglophone de base. Je n'ai pas le même register, la même voix en français qu'en anglais. When I speak English, I feel like I speak lower.
OK.
Et quand je parle en français, j'ai l'impression que c'est plus haut et que c'est moins, peut-être moins sûr, peut-être moins grave. Est-ce que la voix est genrée? Oui.
Pensez-vous avoir construit votre voix selon votre genre?
Oui, tout à fait. Mais j'essaye de la poser maintenant, ma voix, parce que j'ai tendance à parler fortement. J'ai une voix haute et j'essaye de la poser.
Alors moi, je ne sais pas du tout. Pour moi, c'est un peu inné, quoi. Après, peut-être que la façon dont je parle, ça a été façonné par rapport à mes interactions avec les autres.
Je pense que, en soi, on a notre propre voix. Enfin, depuis qu'on est né, après, juste ça a évolué avec l'âge.
Non, c'est vrai. Oui, clairement. En tant que garçon, il y a le côté un peu quand ça mue à l'adolescence, de savoir de quel côté on penche et de se rendre compte que finalement, la voix un peu plus grave. Affirme un peu plus le côté garçon.
Moi j'ai parti des voix graves aussi, donc j'ai pas trop construit, j'ai pas trop choisi ma voix, donc je pense pas que ce soit en fonction du genre. Petite, on me prenait pour un garçon parce que j'avais vraiment la voix très 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 rocailleuse, quoi, mais j'ai pas trop complexé dessus, donc j'ai pas cherché à changer ça. Donc.
Vous pourrez écouter la version plus longue sur le site de Syllab.
Merci Zoé pour ce flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Qui reçois-tu ce soir, Eva ?
Mélanie Moula. Piercing, lunettes rondes, cheveux bouclés, mais surtout pull couleur sapin, alors que ce n'est pas Noël. C'est elle, la fondatrice des éditions Fière, une maison d'édition rennais qui a une particularité. Elle se focalise sur les écrits queer et engagés dans la cause LGBTQIA+. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis fière d'être celle qui vous interviewe aujourd'hui, mais j'aimerais bien savoir pourquoi avoir choisi le nom Fière pour votre maison d'édition.
Pourquoi Fière ? Quand j'ai commencé à travailler sur le projet de cette maison d'édition, je me suis demandé quel serait le mot, le nom qui serait percutant et avec lequel on pourrait savoir directement que c'est une maison d'édition queer. La fierté, Fière était d'emblée la première chose qui m'est venue en tête et ça me permettait aussi d'avoir un point médian pour savoir qui j'avais en face de moi. Si ça énerve quelqu'un, je sais comment ça va se passer.
Et pour revenir un peu au processus de quand est-ce que vous avez eu cette idée, comment ça en est venu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette construction ?
Bien sûr. Moi, à la base, je viens du milieu du marketing. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le community management, social media management, le responsable marketing à la fin, dans différents secteurs. Mais j'ai voulu rentrer dans le milieu du livre à partir de 2017, notamment à Paris. Mais c'est très compliqué quand on n'a pas fait d'études littéraires ou fait de stage dans le milieu littéraire, donc impossible d'y rentrer. Et il y a quelques années, je me suis dit que j'avais envie de monter ma maison d'édition, mais je ne savais pas dans quoi exactement. Suite à un voyage en Espagne, je suis rentrée dans une librairie qui s'appelle Librería Mujeres, qui a une particularité, seulement des livres écrits par des femmes y sont vendus. Et donc j'ai demandé à la libraire est-ce qu'elle avait des livres avec des histoires queer et idéalement qui se terminent bien. En France, généralement, quand je pose cette question, on a 2-3 livres et après c'est la panique et on essaie de chercher ensemble en ligne ce qu'il y a. Là, elle m'amène devant un rayon rempli de BD, de romans en tout genre. Et l'idée un peu, le déclic que j'ai eu là-bas en me disant « Ok, ce serait une maison d'édition queer » parce que quand j'ai fait mon coming out, j'avais pas tout ça. Il y a d'autres maisons d'édition queer qui existent en France, je ne suis pas la première. Il y en a plein un peu partout en France, à Rennes aussi. Mais je voulais, la particularité c'est que je veux apporter autre chose dans le sens où ça va être de la fiction. Ça va être aussi, on va savoir qu'il y aura des personnages queer dans toute sa palette qui puissent exister et on ne va pas se focaliser seulement sur la relation amoureuse, romantique et ou sexuelle. Parce que pour beaucoup, c'est un peu ce qui prédomine et ce qui est important, alors qu'au final, on peut avoir une vie lambda, classique, et vouloir autre chose.
Ok. Vous parlez de fiction, mais est-ce que vous auriez peut-être d'autres publications comme des essais, des manifestes politiques, ou alors c'est vraiment plus de ce côté-là?
Plus de la fiction pour l'instant. Okay. Oui, plus de la fiction pour l'instant. Pourquoi? Il y a déjà des maisons d'édition qui existent avec de l'essai et tout ce qui est politique, notamment je pense à Édition Blast, qui est une maison d'édition du Sud, il me semble Toulouse, qui est déjà incroyable sur le contenu qui est proposé. Après, c'est des choses que je lis aussi beaucoup, les essais, et que je trouve que quand on va dans une librairie et le rayon LGBT est uniquement autour de l'essai. Autour de la fiction, il n'y a pas grand-chose, et c'est ça que je veux apporter, c'est d'avoir la représentation classique, comme on peut avoir dans la culture, dans les séries, etc., de l'avoir aussi dans les livres.
C'est votre maison d'édition, elle se base à Rennes, donc.
Oui.
Est-ce que vous trouvez que Rennes, au niveau des associations queer et de la communauté ici, est-ce que vous pensez qu'elle est bien implantée?
Moi, j'ai pas mal bougé. J'ai vécu pendant 10 ans en dehors de Rennes. À la base, je venais de Rennes. Je suis partie 10 ans et je suis revenue environ 4 ans. Je pense que c'est une des villes où je me sens le plus safe à Rennes. Ou aussi dans tout ce qui est soirée, donc beaucoup de soirées drag king, drag queer, drag queen qui existent à Rennes. Il y a tellement de choses et il y a de plus en plus de choses qui se font, notamment avec la plus jeune génération que moi. Moi, j'ai 34 ans, mais du coup, il y a une plus jeune génération qui apporte autre chose aussi. Et aujourd'hui, oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Il manque encore des choses, mais il y a une représentation et ça fait énormément de bien aussi de voir des personnes déjà plus jeunes que moi s'assumer fièrement dans la rue. Je suis très heureuse de voir ça. Donc pour moi, oui, Rennes est très queer.
Et au sein de Rennes, quelles librairies donc vont diffuser les livres de la maison d'édition? Est-ce que c'est aussi possible de faire des achats sur Internet?
En ce moment, il y a la campagne de précommande via Ulule, okay, qui se termine dimanche. Les livres pourront se retrouver chez La Nuit des Temps. Nilmé va peut-être proposer aussi des livres. Et après, je vais aller voir d'autres librairies, Le Fire aussi. Après, vous pouvez toujours aller dans les librairies et commanderont sans problème. Il y aura le site internet aussi. Et ce week-end, aux Dangereuses Lectrices, la librairie La Nuit des Temps aura un stand avec des livres de la maison d'édition que vous pourrez retrouver directement là-bas.
Et est-ce qu'on peut parler un peu plus des livres que vous m'avez apportés? Donc, te parler encore de Laetitia Fenizio, mais également à la fin, nous verrons Histoire de Marine Perard.
Bien sûr. Donc le premier, Te parler encore de Laetitia Fenizio, sortira la semaine prochaine, le 21 octobre. On est sur un roman très court, 136 pages, c'est une autofiction. Laetitia a perdu son papa d'un cancer et c'est vraiment la relation parent-enfant, l'avant, pendant, après. Comment elle va se construire, comment elle va pardonner son père, comment elle va aimer, comment on fait face à la mort. Donc c'est une histoire qui peut paraître très dark et qui l'est, mais qui est plutôt un moyen de penser ses plaies, ses blessures et recréer la relation parent-enfant, qui peut parler pas seulement à des personnes queer, mais à quiconque en fait, qui a une relation qui peut être compliquée avec les parents. Donc il sortira la semaine prochaine. Et le deuxième livre s'appelle À la fin nous ferons histoire de Marine Perard. C'est son premier roman, mais son troisième livre. Elle avait écrit il y a quelques années Viande à viol, qui est de la poésie. Et l'année dernière, c'était La princesse sans reflet, illustré par Myrion Mal, qui a fait Adieu triste amour notamment il y a quelques années. Et donc là, on est plutôt sur un roman plus jeunesse, mais qui peut être lu par n'importe qui. Donc on va suivre quatre adolescentes pendant la manif pour tous. C'est l'année du coup 2012-2013, c'est leur année de première. Et on a Juliette qui vient d'un milieu très conservateur. Sa famille va se mettre forcément derrière la manif pour tous, au même moment où elle est en train de tomber amoureuse de Roman. Et autour de ces deux personnages, on aura Silas et Lou. Silas est d'origine kabyle et élevé par ses deux mamans. Et Lou se pose des questions sur son genre. Donc c'est un roman qui est assez doux, très poétique. Il fait 400 pages, mais en nombre de mots, il aurait dû faire 200. On a voulu respecter la mise en forme et d'avoir quelque chose qui est poétique, qui est aéré. Avec des très belles illustrations pour les deux, faites par Raphaël Filâtre, qui est une illustratrice queer et parisienne.
Et plus tournée vers vous, est-ce que vous avez vous-même des inspirations dans la littérature que vous aimeriez partager?
Je crois que le dernier coup de cœur vraiment que j'ai eu, c'était le livre d'Anne-Fleur Multon qui s'appelle Les Nuits Bleues, qui est sa rencontre avec sa femme actuelle. Et c'est vraiment une histoire d'amour toute douce. Et pour moi, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire, tout genre, tout confondu. On est vraiment sur quelque chose de bienveillant, de beau et de très bien écrit sur une histoire lesbienne. Et c'est très rare de voir ça. Et d'autant plus par quelqu'un de concerné, je crois que ça fait partie aussi des livres qui m'ont dit ce serait bien d'en avoir d'autres comme ça, des petites pépites.
J'avais vu aussi dans votre communiqué de presse que vous avez parlé du, enfin que vous aviez des comptes donc littéraires avant de créer votre maison d'édition. Oui. Est-ce que je voulais savoir si vous les aviez gardés
ou non, le premier s'appelait Passion Bouquin. Je suis pas la meilleure dans ce qu'on appelle le branding, mais au moins c'était assez clair. Passion Bouquin, il y a quelques années que j'ai supprimé. Et le deuxième s'appelait One Book a Day. C'est par l'expression anglaise qui dit One apple a day keeps the doctor away. Une pomme par jour éloigne le médecin. Et donc j'avais mis One Book a Day. Et j'ai réutilisé ce compte pour créer Édition Fière l'année dernière, mais je ne les ai pas gardés. Après, la question se pose sur Édition Fière de proposer, enfin de mettre aussi en avant des livres écrits par d'autres maisons d'édition qui seront aussi pertinents.
Vous aviez aussi dit dans ce communiqué que 76% des personnes interrogées lors d'une étude estiment qu'il est important d'avoir au moins un personnage queer dans ses lectures. Comment êtes-vous venu à ce chiffre ?
En fait, l'année dernière, quand je me suis posé la question de la maison d'édition, j'ai intégré ce qu'on appelle un incubateur, qui est un programme, enfin là, c'était un programme sur 6 semaines qui permet de savoir si mon idée pouvait devenir un projet. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est réaliser une étude, une enquête sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu est-ce que mon idée de base, c'est-à-dire j'ai besoin de plus de représentation dans la littérature, est-ce que d'autres personnes comprennent aussi ça, ont le même ressenti, et du coup je l'ai envoyé sur les réseaux sociaux et puis après sur des influenceurs. En marketing, on estime qu'une enquête est réussie quand elle atteint 200-300 réponses. Là j'en ai eu 700, ce qui était dingue parce qu'après il y avait tout à regarder, les réponses, etc. Et en effet, il y a 76% des personnes interrogées qui estimaient qu'il était important d'avoir au moins un personnage queer. Et dans les réponses et dans les verbatims, ce qui était flagrant, c'est que tout le monde disait « on en a marre des récits » où il n'y a que des personnes hétérosexuelles, ce n'est pas la réalité. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, dans la génération Z, 18% de la population de la génération Z s'identifie comme appartenant à la communauté LGBTQIA+, on se dit « ok, c'est quasiment une personne sur 5 en final ». Donc oui, il faut aussi que ça se reflète dans tout, et ce n'est pas une niche. Voilà.
Ça me fait venir à une question qui était un peu plus ouverte, que je voulais vous poser à partir de ce savoir que vous avez et ces expériences. Quel est votre regard quant à l'évolution donc, des représentations queer dans notre culture
en France?
Oui.
Il est assez mixte, c'est-à-dire que dans les médias, surtout grâce à l'influence américaine où il y a toutes les questions de diversité et d'inclusion, il y a beaucoup plus de représentations. On a des choses, mais en France, on reste toujours... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. On voit beaucoup ce qui se passe avec le livre Transmania, qui est immonde, sur la question de la transidentité. On ne laisse pas parler les personnes concernées. Et c'est quelque chose qui est assez troublant, et je ne sais pas trop comment faire les choses. Donc il y a une chose qui... Enfin, il y a des choses qui se mettent en place autour de nous, etc. Enfin, dans les communautés queer, où on peut avoir des espaces entre nous, mais dans les médias et dans ce qui existe, il y a beaucoup d'hypocrisie. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, ou si je l'ai un peu...
Non, ça va, c'est gentil. Ok. À propos de votre maison d'édition, donc vous parlez plus des ouvrages faits par... Belge. J'avais parlé de l'ouverture internationale, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est déjà ouvert à l'international pour publier des textes.
Oui, il y a une traduction aussi qui va sortir, qui est des nouvelles qui mélangent érotisme et humour, qui sortira l'année prochaine, premier trimestre 2025.
Ok. Merci beaucoup, Mélanie,
merci beaucoup
d'être venue ce soir sur le plateau.
Merci Eva, tu restes avec nous tout de suite pour la chronique fake news.
Oui.
6 heures avant minuit.
Ça souffle à fond ce soir là. Il y a des ouragans de partout qui portent avec eux beaucoup de fake news, Eva.
Eh oui, tu as bien raison Héloïse, un couple des plus terrifiants, Hélène et Milton, respectivement un ouragan de catégorie 4 sur 5 et un ouragan de catégorie 3 sur 5, ont ravagé une grande partie des États-Unis ces derniers jours. Selon une étude publiée le 9 octobre 2024 par le World Weather Attribution, cette succession de catastrophes naturelles est la plus meurtrière depuis l'ouragan Katrina en 2005. Deux puissants ouragans, dans la même région, au même moment, à quelques semaines de l'élection présidentielle états-unienne. Une coïncidence de dingue, non? En tout cas, c'est suspect pour certaines personnes. Elon Musk, l'élu républicaine Marjorie Taylor Greene ou encore l'ancien président Donald Trump, voici certaines personnalités qui ont mis le feu aux poudres. Au milieu de la panique et des discours médiatiques, Donald Trump a relayé sur X une fausse affirmation sur les dépenses de sa concurrente à la présidentielle américaine, selon France 24. Kamala Harris aurait soi-disant utilisé des fonds voués aux besoins de sauvetage et maintien en vie issus de l'organisme gouvernemental FEMA. Ces fonds vont normalement à destination des victimes des ouragans. Mais, selon cette rumeur, elle aurait donné des millions de ces fonds aux migrants vivant illégalement aux États-Unis. Cette rumeur fut discréditée par le site du FEMA lui-même quelques heures après. Mais dans ce climat propice aux théories du complot, c'est le climat lui-même qui est remis en question. Oui, le gouvernement peut contrôler la météo. Tweet Marjorie Taylor Greene. Cette publication est accompagnée d'une vague d'internautes faisant ressurgir les théories du complot sur la manipulation du climat et plus particulièrement sur HAARP. HAARP ou High Frequency Active Auroral Research Program.
Quel accent!
est un observatoire de recherche américain étudiant la haute atmosphère à l'aide d'antennes. Nombreux complotistes sont persuadés. Il s'agit d'une arme secrète pour contrôler le climat. Avec un soutien venant des républicains, les complotistes s'en prennent directement aux météorologues et deviennent parfois même violents, témoigne à Rolling Stones James Spann, un météorologue d'Alabama. Ils perdent toute foi en l'humanité, ajoute un deuxième météorologue, Matthew Capucci. Pourtant, le professeur de l'université de Stanford, Umran Inan, l'a dit. Les théories concernant le contrôle du climat ne reposent pas sur des faits car aucun phénomène, aussi énergétique soit-il, ne peut modifier le système climatique terrestre.
Merci Eva pour ce débunkage.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
0 heures.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
On se passe un petit coup de bigot ?
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Est-ce que vous connaissez le 02 30 96 25 35? Pas encore, mais pourquoi? Laissez-moi vous en parler. Vous avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous que vous aimeriez nous partager, une déclaration d'amour peut-être, ou un coup de gueule sinon, un retour sur nos reportages. Laissez-nous un message vocal, je le répète, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera peut-être diffusé à l'antenne. En attendant, je vous dis à demain. Merci Nicolas pour la technique, c'était une première, sûrement pas la dernière. Allez, à demain!
Si, la, la. La radio sauvage.
Quelle heure est-il?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit!
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.